Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de 10 minutes avec. Hier, nous étions avec Claire de l'association Les Ministries des Arènes qui nous présentait les visites dans les arènes de Nîmes qui auront lieu le lundi 30 et mardi 31 octobre et mercredi 1er novembre. Elle nous racontait les porteurs de torches, donc les ministries qui vont porter les torches. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Marie-Amélie Delogu qui est guide conférencière pour EDIS, donc le délégataire qui a en charge notamment les arènes de Nîmes et qui va se transformer en guide gladiatrice pour ses visites. Marie-Amélie, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour nous parler de ces visites qui sont alors malheureusement déjà complètes.
Tout à fait.
Chers auditeurs, auditrices, si vous n'aviez pas déjà vos places, malheureusement, il n'y en a plus. Mais on vous réserve quelques petites surprises à la fin de cette émission. Donc restez bien avec nous. Mais on a quand même envie de savoir ce qui va s'y passer dans ces arènes de Nîmes pour Halloween, surtout que c'est la première fois qu'une telle visite va être proposée. Marie-Amélie, c'est ton idée. Est-ce que tu peux nous en parler justement de cette idée de visite ?
Tout à fait. Eh ben, c'est une idée qui m'est venue pour un petit peu essayer de dynamiser les arènes dans une période où elles ne sont pas forcément extrêmement occupées. Et du coup, ben, ce serait des visites aux flambeaux. Donc dans les arènes de Nîmes, basées actuellement sur le thème d'Halloween, parce que oui, Halloween existe depuis bien longtemps, même bien avant les arènes. Et du coup, voilà, des petites visites aux flambeaux sur l'histoire d'Halloween, de l'Antiquité, pratiquement jusqu'à nos jours, quoi.
Alors justement, Halloween, durant l'Antiquité, à quoi ça ressemblait? Comment les Romains et Romaines fêtaient cette fête que nous, aujourd'hui, on connaît avec des citrouilles, avec des sorcières, mais qui n'existait pas à cette époque-là?
Tout à fait. Et ben du coup, un petit peu comme toutes les fêtes qui vont exister, ça remonte à très 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 longtemps et même avant les Romains, puisqu'à la base, c'est une fête qui est d'origine celte, donc plutôt du nord de la France, voire l'Irlande et l'Angleterre actuelle, qu'on appelait le Samhain à l'époque. Et donc, à cette période-là, qui était située comme nous, hein, ici, fin octobre, début novembre, c'est une fête où on va justement rendre hommage à la fin de la saison, puisque Sam, ça voulait dire fin, et Ain, été, donc en gaélique. Et donc, on fêtait justement la fin de l'été et le début de l'hiver, puisque les Celtes n'avaient que deux saisons à l'époque. Et à ce moment-là, dans l'imaginaire celtique, c'était un petit peu l'époque où, ben, justement, les deux mondes allaient se rencontrer, donc le monde des vivants et le monde des morts. Et donc, on allait fêter justement cette rencontre-là, à base de petits déguisements, de petites sorties dans les rues à l'époque. Et surtout, on allait creuser des légumes qui sont pas forcément les légumes auxquels on peut s'attendre à notre époque à nous, puisqu'on va surtout creuser à l'époque des petits navets qui seront également repris par les Romains par la suite. Et en fait, de cette fête-là, on va arriver à quelque chose de beaucoup plus romain, avec la conquête de la Gaule, etc. On va un petit peu mélanger plusieurs choses. Les Romains, eux, ils fêtaient principalement deux choses. La première, c'est la fête de Pomone. Pomone qui est une divinité de la nature, une divinité des saisons. Et on allait fêter, justement, un petit peu similairement aux Celtes, le passage d'une saison à une autre. Mais là, on était sur quelque chose de beaucoup plus, on va dire, léger. On allait fêter la nature qui va changer, les arbres qui vont changer de couleur, etc. Donc c'était un début, un prémisse de fête, mais plutôt positif. Après, il y avait une autre fête qu'on appelait les Feralia, qui se passait globalement autour de février. Et à ce moment-là, effectivement, on est sur la fête des morts pour les Romains. À ce moment-là, on est persuadé, comme chez les Celtes, que les âmes des morts vont venir rendre visite aux vivants. Et donc, on allait leur faire des offrandes, que ce soit des offrandes de nourriture, de fruits de saison, de fleurs, on pouvait faire du parfum, les enfants pouvaient se déguiser. Et cette fête des Feralia, mixée avec le Samhain celtique, va donner naissance à un prémisse d'Halloween qu'on va fêter effectivement donc fin octobre et début novembre, à l'époque des Romains.
Donc là, on est sur un Halloween antique, un mix en fait, un espèce de melting pot de plusieurs cultures. Halloween qui a encore évolué après par la suite, mais dans les arènes de Nîmes, c'est cette histoire-là que tu vas donc proposer aux visiteurs. Et quelle est l'histoire que tu as créée pour justement le raconter sans que ce soit un peu trop court magistral, hein, parce que forcément avec des visites au flambeau, j'imagine qu'il y aura des petites intrigues, de l'action. Qu'est-ce qui va s'y passer? Quelles surprises vont avoir les visiteurs des arènes?
Eh ben, du coup, je voulais quelque chose d'un petit peu différent. Je voulais pas que ça soit comme d'habitude Marie-Amélie qui fait visiter les arènes. Donc j'ai décidé pour l'occasion de me transformer en un petit personnage que j'ai inventé, à savoir Appia, la gladiatrice. Donc Appia qui va accueillir les visiteurs lors de ces soirées-là et qui va leur expliquer qu'elle imagine que comme elle, ils sont un petit peu en retard dans leurs préparatifs pour la fête d'Halloween. Et donc elle va les amener avec elle à travers les arènes en leur expliquant justement l'histoire d'Halloween. Et ils vont faire ensemble la cérémonie qu'il faut faire justement pour éloigner les mauvais esprits. Mauvais esprits qui auront peut-être un petit peu tendance à se mêler à la visite, du moins avant la fin, quoi.
Oui, forcément, on imagine qu'il y aura un peu de peur, des monstres qui pourraient apparaître en plus subitement, parce qu'on a donc les fameux porteurs de torches, et sinon toutes les arènes seront plongées dans le noir. Ça va être quand même une ambiance très pesante.
Absolument, absolument. Et du coup, ma visite, elle va aussi avoir quelques personnages assez centraux, entre gros guillemets. On va avoir notamment toute une explication sur les enfers romains, parce que même si ils n'ont pas une fête qui est aussi développée que ce que peut être Halloween à notre époque à nous, on a quand même tout un rituel et toute une histoire des morts à l'époque des Romains qui est assez importante, notamment les enfers. Et grâce aux enfers, on va pouvoir discuter un petit peu des personnages comme Charon, par exemple, ou les psychopompes, Minos ou le Minotaure, par exemple.
Alors, qui sont ces personnages? Parce que, alors, tu me parles de noms complètement inconnus. Il y a peut-être que le Minotaure que j'arrive à dessiner dans ma tête. Mais qui sont les psychopompes? Qui est Minos? Qui est le Charon?
Alors, on va commencer par le Charon, tant qu'à faire. Le Charon, à l'époque des Romains, on considère que c'est l'entité qui va récupérer l'âme des Romains et les ramener jusqu'aux enfers. Parce que oui, chez les Romains, pas de paradis et d'enfer. On n'a que les enfers. Ça ne veut pas pour autant dire que c'est que du négatif. Il y a une partie des enfers qui est positive et une partie qui est négative. Et donc Charon, lui, avec sa barque, récupérait les âmes des Romains et les faisait traverser le fleuve qu'on appelle le Styx, qui était un petit peu le fleuve des enfers. Et une fois que c'était traversé, on se tenait face au juge des enfers. Et parmi ces juges, il y avait Minos. Minos, c'est le roi de Crète à l'époque. Et c'est surtout le père du Minotaure et le créateur du labyrinthe du Minotaure. Donc, personnage assez important. Qui, lui, va décider de où vont être placées les âmes. Soit on peut aller aux Champs-Élysées et vivre une vie après la mort assez douce, soit on peut terminer au Tartare, et là, c'est un petit peu moins rigolo. Et pour le psychopompe, là, c'est notre lien avec les arènes, puisque pendant les combats de gladiateurs, si jamais on venait à avoir un mort pendant le combat, on faisait appel au psychopompe, qui était un personnage masqué, qui était là pour faire peur au public, et qui surtout portait avec lui un énorme marteau. Donc oui, marteau qui servait justement à, imiter un petit peu le travail de Charon, puisque sur le corps des défunts gladiateurs, il venait porter un coup de marteau, et on partait du principe que par ce coup de marteau, il envoyait directement l'âme dans les enfers, et par la même occasion, il éviterait ainsi de hanter les arènes de Nîmes, quoi.
Oui, parce que donc les gladiateurs qui mouraient au combat n'avaient pas le rituel propice, enfin qui est habituel d'usage lors de leur mort, vu que c'était devant des milliers de personnes.
Exactement, exactement. Et donc pour éviter que les arènes ne soient hantées par trop d'âmes de gladiateurs, on faisait appel aux psychopompes qui venaient régler tout ça d'un coup de marteau.
Donc ces visites d'Halloween sont, on le disait, complètes, oui. Mais tu as d'autres idées. Et justement, c'est le moment d'en parler. Quelles sont les idées qui vont attendre les Nîmois, Nîmoises, Gardois, Gardoises et même les touristes, bien sûr?
Tout à fait. On va rester sur ce même principe de visite au flambeau parce que c'est quand même la chance, en fait, pour les spectateurs de découvrir les arènes de Nîmes de manière complètement différente, vraiment dans un contexte très privé, en fait, découvrir le monument sous un angle complètement différent. Et donc, on avait pensé à faire un format similaire, mais sur des thèmes différents. Donc, par exemple, pourquoi pas le thème de Noël en décembre et le thème de Pâques en avril. Toujours basé forcément sur des fêtes antiques à l'origine.
Et ça, bien sûr, ce sera retrouvé. Toutes les informations seront à retrouver sur le site internet des arènes de Nîmes ou sur les comptes Instagram, Facebook, Arènes de Nîmes, Edéis également. On remercie Edéis pour ces belles propositions, ces nouveautés qui attendent tout le monde donc aux arènes. Merci beaucoup, Marie-Amélie, d'avoir été avec nous et bonne préparation pour devenir Appia.